Secret d'info, Jacques Monin, sur France Inter.
Et on va continuer de parler musique, mais pas tout à fait de la même, avec François Tomaso, bonjour.
Bonjour.
Vous co-signez avec Vincent Sorel Les Dopés de l'Orchestre, c'est une BD qui est publiée dans la Revue Dessinée, et qui est consacrée au dopage dans la musique classique. Alors ça peut paraître surprenant, c'est vrai que quand on parle dopage, on pense d'abord au sport, mais vous expliquez que les musiciens aussi sont très stressés et donc ils auraient recours à une forme de dopage, en tout cas, et notamment lors des concours d'orchestre.
Tout à fait. Bah, et en fait, j'ai découvert un petit peu ça par hasard. Je cherchais des renseignements sur des produits dopants qui s'appellent les bêta-bloquants, que les gens connaissent bien maintenant. C'était utilisé pour l'hypertension et d'autres choses.
En travaillant sur le sport?
En travaillant sur le sport. Ouais. Mon idée, c'était de travailler sur les bêta-bloquants, parce qu'ils sont utilisés dans le sport, par exemple, les sports de précision, le tir à l'arc, ce genre de choses. Et en allant sur les forums où on parlait de bêta-bloquants, je me suis rendu compte que c'était absolument pas des sportifs qui parlaient de bêta-bloquants, mais c'était des musiciens. Je me suis dit, tiens, c'est étrange. Comment se fait-il que les musiciens s'échangent des infos sur les bêta-bloquants? Et c'est comme ça que j'ai découvert que en raison du stress considérable que vivent les musiciens de musique classique, notamment en phase de concours d'orchestre, ils avaient un recours assez généralisé aux bêta-bloquants qui sont des antitraques. Mmh. Hein, le plus connu étant le propranolol, qui se décline sous un certain nombre de formes, mais qui visiblement semble assez répandu dans les orchestres.
Alors, faut expliquer comment ça se passe quand même un concours d'orchestre, parce que vous le racontez. C'est vrai que vous êtes derrière un paravent. Mmh. Si au bout d'une minute on considère que vous ne faites pas l'affaire, il y a une clochette qui sonne,
c'est
en fait,
ça.
Vous êtes traité un peu comme du bétail.
Voilà, vous voyez. Alors, bon, là, on a le témoignage d'une altiste qui travaille dans un orchestre de province, qui m'a raconté tout ça. C'est assez affreux. Et elle explique en effet que quand on passe un concours d'orchestre, vous avez une minute pour jouer un morceau imposé, une minute pour jouer un morceau que vous avez choisi. Tout ça se fait derrière un paravent, donc vous voyez pas vos juges. En effet, une petite clochette sonne. Et avant ça, tous les candidats, qui sont tous très bons, sont réunis dans un genre de chambre d'appel, comme dans un stade d'athlétisme, et à se jauger, à entendre ce que font les autres. C'est un stress assez affreux, et une carrière, un emploi qui peut durer 1, 2, 3, 4 ou 10 ans,
se joue sur
2 minutes de musique.
Alors, comment être sûr en même temps que le dopage auquel vous faites allusion est répandu? Je veux dire, qu'est-ce qui vous permet de dire que c'est pas un cas particulier aux quelques personnes qui vous ont parlé d'eux, mais que ce propranolol dont
ça,
on parle est utilisé couramment?
Donc on a commencé à parler de ce problème au début des années 80, et il y a un syndicat très puissant des musiciens américains qui a mené une enquête et qui s'est rendu compte à l'époque que déjà un bon quart des musiciens classiques avouaient avoir recours à ce produit ou à d'autres, hein, ça pouvait être des fois des barbituriques, enfin des anxiolytiques, tout un tas de produits. Et une autre enquête a été faite au début des années 2000, et là on était passé un bon tiers, voire une moitié de musiciens qui reconnaissaient avoir recours à ces produits-là. Alors il y a des produits beaucoup plus classiques, hein, il y a l'alcool, il y a certains musiciens m'ont dit bon, utiliser beaucoup par exemple le cannabis pour se déstresser. Et donc ces statistiques, qui sont tout à fait officielles et tout à fait sérieuses, ont démontré la présence de ces produits dans l'orchestre.
Et les témoignages que vous avez recueillis vont dans le même sens?
Totalement, c'est-à-dire quand j'ai plusieurs témoignages, notamment un chanteur, tous avouent qu'il y a comme ça le recours, alors bon ou mauvais d'ailleurs, hein, parce que certains hésitent à parler de dopage en disant nous, ce que nous faisons, c'est pas de la performance.
Oui, mais ça n'augmente pas les capacités, en revanche ça maîtrise le stress.
C'est ça, exactement, et d'ailleurs si vous jouez stressé, de toute façon vous jouez mal, donc ça améliore quand même vos performances. Et puis dans le cadre d'un concours, il y a quand même une concurrence. La concurrence peut y avoir une distorsion de concurrence liée au fait que un musicien prend des cachets, que l'autre n'en prend pas. Et d'ailleurs, il y a des bêtes à concours qui sont pas forcément douées d'une sensibilité ou d'un sens artistique très fort, mais par leur capacité à maîtriser leurs nerfs ou à utiliser ces produits, arrivent à passer des concours, finalement un peu au détriment de l'art, parce que la chimie altère un petit peu tout ça.
Ça concerne essentiellement ceux qui passent des concours, et j'allais dire ceux qui sont le plus en vue, comme les solistes par exemple, qui sont face au public, ou ça concerne l'ensemble de l'orchestre?
Alors il y a un peu de tout. Donc les personnes que j'ai interrogées me disent qu'en général, ils sont assez peu stressés en groupe. Il y a le stress normal, le petit trac qu'on ressent tous, vous avant une émission ou moi quand vous m'interrogez. Mais ça
c'est de l'adrénaline,
voilà, c'est de l'adrénaline, ça passe très vite, c'est un bon stress. Et ils me racontaient donc, tous ces gens-là, qu'au bout de 5 à 10 minutes, ou même un peu plus vite, dès que c'est lancé, on est au contraire pris par la dynamique du groupe. Et c'est plutôt stimulant. En revanche, quand vous êtes tout seul, que tout repose sur vous, soit que vous êtes un soliste, soit que vous êtes un chef d'orchestre, soit que vous êtes un chanteur d'opéra, là le stress est beaucoup plus fort, parce que des tas de choses peuvent arriver. Quand vous chantez, ça fait travailler énormément le diaphragme, et ça crée ce qu'on appelle un reflux œsophagien, donc ça fait remonter de l'acidité. et donc leurs cordes vocales sont attaquées par des remontées acides, et donc ils utilisent ce qu'on utilise dans ces cas-là, ce qu'ils appellent des inhibiteurs de la pompe à protons, qui sont, me disent les chanteurs à qui j'en ai parlé, des produits utilisés de manière extrêmement répandue chez les chanteurs.
Alors on le découvre parce que c'est un tabou en fait, mais voilà. C'est pas nouveau, ça date pas d'hier. Vous parlez par exemple du ténor italien Enrico Caruso, qui lui-même se shootait déjà à l'éther.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire ce que je viens de vous expliquer sur les chanteurs d'opéra. Caruso était lié à la même, avait le même type de problème. Il est mort assez jeune d'ailleurs. Alors
48 ans.
Voilà, c'est ça. Ouais. Pas forcément des suites de la consommation d'éther, mais on peut penser que son métier, son art, a été en partie responsable de cela. Glenn Gould est quelqu'un qui a très vite refusé de faire des concerts parce qu'il ne supportait pas ça.
Donc cette pression.
Pression, voilà, qui est vraiment...
Pression qui serait de plus en plus importante parce que notamment les délais pour produire un opéra, par exemple, sont de plus en plus courts.
La musique classique subit le même type de fonctionnement finalement que nous tous, c'est-à-dire qu'il y a un flux tendu, une accélération du temps et des choses. En même temps, une concurrence de plus en plus accrue, ce qui fait que le stress est encore accru. À tout moment, si vous trébuchez, quelqu'un d'autre peut vous remplacer. Et chez les chanteurs notamment, par exemple, les fractures des cordes vocales sont aussi fréquentes que les blessures du genou chez les skieurs ou les footballeurs, sachant également que l'argent compte, c'est-à-dire que si vous êtes un soliste important ou un chef d'orchestre, il y a toute une économie qui dépend de vous, donc ça accumule encore cette pression énorme qui pèse sur eux.
Alors il y a deux choses qu'il faut quand même qu'on précise, c'est que un, ce sont des produits qui sont interdits par l'Agence mondiale antidopage,
oui.
Et que deux, on l'évoquait, ça a des conséquences.
Bon, les bêta-bloquants, la personne qui a lancé un peu l'alerte là-dessus s'appelle, c'est une américaine, une oboïste qui s'appelle Blair Tyndall. Elle trouve qu'on en fait trop, que finalement ce sont des médicaments assez banals et que finalement pourquoi les interdire? Le problème étant quand même que comme tous les médicaments, ce sont des médicaments à manier avec prudence, tout ce qui a trait au cœur et à l'attention.
En tout cas avec un encadrement qui n'existe pas.
Un encadrement médical, voilà. La différence avec les sportifs, et beaucoup des musiciens m'ont dit ça, c'est que eux, c'est un petit peu la démerde, passez-moi l'expression. Ils se refilent des plans de docteurs qui sont complaisants, qui vont leur donner des cachets, mais ils sont pas entourés comme un sportif peut l'être par un psychologue, un sophrologue, un médecin d'équipe ou un kinésithérapeute. Ils sont livrés à eux-mêmes, d'où parfois la tendance à un petit peu exagérer. Et Isabelle, dont je parlais au départ, donc l'altiste, me disait que elle a dans son étui d'instrument, elle a son propre anonol qu'elle prend ou ne prend pas. Elle me dit qu'elle a eu sa phase whisky, certains c'est le cannabis, et elle a une expression assez marrante, elle dit elle dit de ses collègues ou d'elle-même, on gobe ou on gobe pas, lui il gobe, lui il gobe pas, donc c'est devenu une expression dans l'orchestre, tu gobes ou tu gobes pas, c'est un jargon, presque un jargon de dopé ou de drogué, ce qui est un peu triste.
Pourquoi c'est tabou dans le classique, dans le rock, Freddie Mercury, les Beatles, les Stones, on le sait, ils sont tous à un moment donné drogués, dopés, c'est connu dans le sport, même si c'est pas légal. En revanche, dans le classique, c'est un tabou.
C'est ça. Benoît Menute le dit bien, lui, parce que il se trouve qu'il a été pianiste aussi pour des chanteurs de variété, et donc il dit très bien que quand lui, il était en tournée avec des chanteurs, ça faisait partie de ce que vous trouvez dans les vestiaires, de temps en temps, quelques produits que la morale réprouve, mais qui sont finalement assez répandus dans les
loges.
Même
dans le milieu audiovisuel.
Oui, même dans le milieu audiovisuel. Mais dans la musique classique, non, c'est parce qu'il y a ce côté un petit peu guindé, BCBG, d'une pratique artistique d'une grande pureté. Ce que disent les musiciens, c'est de minimiser l'impact de ces produits, dire finalement, nous ne sommes pas, nous, des dopés, parce que nous ne sommes pas en compétition. Et finalement, si ces produits ne font pas de mal à notre santé et nous permettent de vous offrir un meilleur spectacle, bon, tout le monde est gagnant. On peut discuter de ça. Voilà.
Bon. On laissera le sujet ouvert. Merci en tout cas d'avoir levé un coin de voile sur cet aspect méconnu effectivement de la musique. Alors merci donc François Tomaso. Je rappelle que votre BD, la BD Les Dopés de l'Orchestre, vient donc de paraître dans la revue Dessinée.
Secret d'info sur France Inter.